clos, vous m'entendez? Écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je vous demande, avant de commencer le meeting, dans un premier temps, d'éteindre les portables. Je viens juste de le faire moi-même. Il reste des places pour un bon. Les personnes qui sont assises sur les escaliers, il y a des places au milieu. Je vais d'abord, dans un premier temps, présenter la tribune. Tout d'abord, Nathalie Arthaud, sur votre droite. Donc, qui est notre candidate, la candidate de lutte ouvrière pour les élections présidentielles de 2012. Sur votre droite, plus à droite, je dirais pas là. Donc, je présente Patrice Huret, notre camarade. Notre camarade Patrice Huret, qui est ouvrier aux fonderies du Poitou-Allu, et qui mène avec ses camarades de l'entreprise en fait une bagarre contre un patron, vous avez certainement suivi ça dans la presse, qui entend leur voler pas moins de un quart de leur salaire, et il va développer tout à l'heure justement la lutte qu'il mène depuis maintenant 6 semaines. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Donc moi-même, Ludovic Gaillard. Donc je suis enseignant à l'IUT de Poitiers et représentant de lutte ouvrière sur Poitiers. Voilà, nous allons commencer notre meeting et je laisse la parole à Patrice Vionnet, ouvrier métallurgiste aux fonderies du Poitou-Allu à Rouen.
Chers amis, chers camarades, cela ne vous surprendra pas, je vais vous parler des événements en cours à la fonderie du Poitou-Allu. Cette entreprise du groupe Montupé, où je travaille depuis 30 ans cette semaine, et qui est installée à Ingrandes-sur-Vienne, à quelques kilomètres du nord de Châtellerault. Le 13 juillet dernier, voici aujourd'hui 3 mois jour pour jour, le directeur de la fonderie a annoncé de manière presque anodine, à la fin d'un comité d'entreprise ordinaire, que la direction envisageait de mettre en œuvre un plan dit de compétitivité. Il était question de baisser nos salaires de 15%. Le 25 juillet, à 4 jours de notre départ en congé, la direction a précisé son projet. La fonderie d'Ingrandes n'étant, paraît-il, pas assez compétitive et nos salaires trop élevés par rapport à ceux des autres établissements de Montupé en France, nous allions devoir accepter qu'il soit diminué, non pas de 15%, comme ils ont envisagé précédemment, mais carrément de 25%. En plus des 15% de baisse de salaire de base, les patrons annonçaient en effet leur intention de faire passer l'horaire hebdomadaire de travail de 38h30 à 35h, 35h payées 35 évidemment. En y ajoutant les incidences sur les primes, c'est donc près de 25% que nos salaires allaient être amputés si nous ne parvenions pas à les en empêcher. Les patrons agrémentaient le tout d'une dénonciation de la crise salariale, elle aussi jugée trop favorable. N'oubliez pas les techniciens, agents de maîtrise et cadres qui se voyaient menacés de la perte de 14 jours de RTT, un blocage de 3 ans des salaires et une mise à disposition des usines européennes du groupe de 50 agents des structures. Pour un salaire de 1500 euros net, salaire que se font beaucoup d'entre nous en travaillant en équipe depuis 20 ou 30 ans, cela signifiait la perspective d'une perte de 350 euros à 400 euros par mois. 3 mois de salaire en moins par an. Des salaires de misère pour se crever, parfois crever tout court, dans les conditions de travail de fonderie, nous avons dit non, 1000 fois non. Une attaque d'une telle ampleur est-elle illégale? Même pas. Dans le contexte d'offensive anti-ouvrière que nous connaissons depuis des années, la législation et jurisprudence ont évolué de telle manière qu'il suffit à un patron d'alléguer des difficultés économiques, voire même la prétendue nécessité d'améliorer la compétitivité face à la concurrence pour avoir toutes les chances d'être dans les clous aux yeux des tribunaux. À la seule condition qu'ils aient notifié la modification du contrat de travail dans les formes prévues, le patron peut même, sans autre forme de procès, procéder au licenciement économique de tout salarié qui refuserait la baisse de son salaire. Accepter une baisse d'un quart de nos salaires, ou bien nous retrouver à la porte sans autre forme de procès, voilà donc la nouvelle qui nous est tombée dessus en guise de prime de vacances, assortie de la menace que les lettres de remise en cause des contrats nous parviennent pendant les congés, et que nous soyons donc confrontés individuellement aux choix pourris proposés par les patrons. Dans un premier temps, la nouvelle nous a un peu sonné, mais la colère l'a vite emportée. Avec elle, l'envie de ne pas nous laisser faire. Pourquoi faudrait-il donc accepter un tel sacrifice alors que le groupe Montipé annonce une croissance de 32% de son chiffre d'affaires au premier semestre de cette année? Pourquoi devrions-nous revenir 30 ans en arrière alors que les bénéfices sont eux aussi en hausse? Pourquoi accepter que de voir nos familles plonger dans les difficultés, voire dans la misère, alors que le PDG Vagnant s'octroie un salaire annuel de 1 million d'euros en plus du revenu de son paquet de 115 000 actions? Et puis, comment croire qu'accepter de sacrifier nos salaires protégerait en quoi que ce soit nos emplois après l'expérience des travailleurs de Continental, de Bosch, de Fenwick ou de Renault-Vilvoorde? Enfin, pourquoi accepter qu'après avoir engraissé quatre patrons successifs, Renault jusqu'en 1988, Texil, le groupe de fonderie de Fiat, ensuite un fonds d'investissement américain, suivi d'un fonds d'investissement allemand, nous serions à présent la proie d'un groupe de fonderie français qui se taillerait la part à coups de hache dans nos salaires? En partant en congé, nous n'avions évidemment pas l'esprit tranquille. Mais c'était décidé. Si les patrons envoyaient leurs lettres en août, nous opposerions un refus massif à leur projet. Et s'ils ne retiraient pas leur plan, le 2 septembre, jour prévu d'un nouveau comité d'entreprise, ce serait aussi le premier jour de la grève que nous avions décidé de leur opposer. De fait, le 2 septembre, 4 jours après le retour de congé, quand bien même l'envoi des lettres fatidiques était reporté à la fin septembre, la grève était quasi totale. Puisque Montupé n'avait pas remisé son plan, c'en était fini de la production des culasses. Et fini aussi du travail en équipe, du travail de nuit. Comme nous n'avons cessé de crier depuis le premier jour de grève, des salaires de misère, on n'en veut pas, moins 25%, on n'en veut pas. Forces regroupées allaient nous permettre non seulement de peser économiquement sur Montupé, mais d'entreprendre de multiples actions pour populariser notre lutte. Nous adresser aux travailleurs du groupe et de la région, à la population laborieuse du Châtel-Rodez. Et on peut dire qu'en un mois de grève, nous avons en effet fait parler de nous, jusqu'à percer le mur d'indifférence des médias nationaux et surtout à poser un certain problème au patronat et à ses larbins gouvernementaux. Nos premières sorties, nous les avons consacrées à des visites dans les entreprises les plus proches des fonderies, Aigle et Chisholm. Nous nous sommes adressés à la population ouvrière en multipliant les diffusions de tracts au rond-point d'accès des zones industrielles aux portes des entreprises. Toujours groupés en une force compacte, nous avons aussi rendu visite aux concessions automobiles, les Renault, PSA, Dacia, Toyota. Nous avons demandé aux directeurs inquiets de transmettre notre message et discuter avec les employés et les mécanos qui n'ont pas hésité à afficher leur solidarité. À trois reprises, nous sommes allés à Montupé-Châteauroux, dont deux fois en quart à plus de 250. Là-bas, nous avons pu mesurer à quel point les grilles derrière lesquelles on cherche à enfermer les travailleurs résiste bien peu à des grévistes déterminés. À vérifier aussi que la réactivité, la combativité dont ont fait preuve les travailleurs des fonderies du Poitou nous ont permis de conquérir au fil des années non seulement des salaires un peu moins médiocres, mais également des conditions de travail moins précaires qu'à Châteauroux. Nous avons aussi envoyé une délégation de grévistes à la fonderie de Laigneville, dans l'Oise, où l'accueil des travailleurs a été chaleureux, même si l'ambiance n'était pas à se joindre à la lutte. Et nous sommes allés au siège de Montupé à Clichy-les-Garennes et de Renault à Boulogne-Billancourt, Renault vers lesquels partent 85% des culasses que nous produisons. Les représentants de la direction Renault ont eu la franchise cynique de nous dire que baisser les salaires, c'est une mesure à laquelle ils pourraient eux aussi tout à fait recourir en fonction de la conjoncture. Pendant 4 semaines, ni les patrons, ni les pouvoirs publics n'ont semblé réagir. C'est seulement au bout de 4 semaines, le vendredi 30 septembre, que le préfet a mis sur pied une réunion tripartite entre la préfecture, la direction de Montupé et les syndicats. À cette réunion, la seule proposition du PDG Magnan fut d'oser nous proposer d'arrêter la grève en échange de séances d'explication de ce plan de compétitivité. Inutile de dire qu'après 4 semaines de grève, la provocation du PDG provoqua une forte montée de colère. La décision des grévistes s'imposa comme une évidence, il fallait continuer la grève. Dès le lundi 3 octobre, la grève prit un visage un peu différent. Puisque le PDG prenait nos salaires en otage, nous prendrions le contrôle de la fonderie en installant notre camp de base au carrefour d'accès commun aux fonderies Alu et Fonte. Depuis, avec des intermittences, parce que nous ne voulons pas nous condamner à être cloués 24 heures sur 24 à l'entrée de l'usine, nous occupons le carrefour baptisé Carrefour des Luttes. Nous interdisons ainsi l'accès des camions et ne laissons passer que les travailleurs de la fonte qui manifestent leur solidarité en s'attardant volontiers pour discuter. Avec les culasses en stock, nous avons érigé des barricades aux portes, tandis que les lingots d'aluminium se sont transformés en tons de Lego pour écrire en lettres géantes les mots de notre colère. Quant à empêcher les quelques non-grévistes de travailler, la question ne se pose pas vraiment. Ils sont, d'une part, très peu nombreux et d'autant moins aptes à produire quelque chose qui ressemble à des culasses qu'ils ne se recrutent guère parmi les ouvriers. D'autre part, sentant monter la montée de la colère, les patrons ont, dans la nuit du 2 au 3 octobre, fait vider et mis en sécurité les fours de fusion, tandis que les produits dangereux étaient transférés dans l'usine de la fonte voisine. Jeudi 6 octobre, enfin, une réunion consacrée à la situation de la fonderie a eu lieu entre une délégation de syndicalistes, un représentant du ministre de l'Industrie, Besson, ainsi qu'un représentant du ministre du Travail, Bertrand, signe que les pouvoirs publics voudraient bien voir notre grève s'arrêter. Même si le poids du chômage et le peu de confiance qu'ont encore la plupart des travailleurs dans leurs forces collectives rendent difficile la propagation de la grève, les gouvernants et les patrons savent bien que l'étincelle entretenue par notre lutte pourrait donner des idées à d'autres travailleurs, tant nous sommes partout et tous les jours sous le coup des attaques dans tous les domaines. Cette crainte, ils l'ont. C'est justement notre espoir, c'est notre force. C'est ce que je veux vous dire, mes camarades, pour conclure, c'est que la lutte des fonderies, plus dure qu'elle soit, est porteuse d'espoir. Elle a déjà montré que les travailleurs n'acceptent et n'accepteront pas éternellement de prendre les coups sans les rendre. Là où d'autres, avant nous, avaient fait le choix de sacrifier leur salaire dans l'espoir fallacieux de sauver leur emploi, Nous avons dit c'est non. autant dire qu'avant d'engager la lutte, nous partagions la même crainte de nous retrouver au chômage, les mêmes difficultés à boucler les fins de mois, à faire face aux traites, au remboursement d'emprunts que tous les travailleurs, de tous les travailleurs. Mais arrive un moment où l'on ne peut plus, où l'on ne veut plus accepter. À la fonderie, nous n'avons pas choisi le moment. C'est la brutale attaque du patron qui l'a déterminé. Mais nous avons tout de même choisi de riposter, comme le feront les serments tous les travailleurs face aux attaques de plus en plus violentes contre nos conditions d'existence. Inutile de dire que financièrement, la grève engagée il y a plus de 6 semaines, demain, nous coûte cher. Mais elle nous coûte finalement moins cher que nous aurait coûté la passivité. Sans la grève, nous étions sûrs de perdre, et nos salaires, et sans doute nos emplois. La grève, avant même que nous nous entrevoyions une issue, nous a appris à quel point les travailleurs, lorsqu'ils se mobilisent vraiment, ont en eux des trésors de solidarité, de dévouement, de compétences. Nous avons éprouvé dans bien des domaines qu'il s'agisse de faire ouvrir les portes des usines barricadées, de faire contribuer à la caisse de solidarité un élu récalcitrant, ou d'assumer le casse-croûte quotidien de centaines de grévistes. Nous avons vu aussi tomber les barrières qu'on aurait cru plus difficilement franchissables encore que les portes d'usine. Les barrières entre boutiques syndicales, par exemple. Mais surtout, celles que peuvent créer les conflits de la vie quotidienne. La grève unifie. Elle fait prendre conscience de notre force collective. Elle relève le courage et les compétences multiples des travailleurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, au terme de notre lutte. Montupé a tenté de reprendre la main en provoquant ce matin un comité d'entreprise extraordinaire avec l'ordre du jour, la demande de mise en cessation de paiement de la fonderie. La réunion est reportée par le préfet à lundi à 9h suite à son refus de prêter les locaux de la République. Je le cite, « Le service public ne sera pas un lieu de la casse de l'emploi. Si » Si la procédure allait à son terme, cela conduirait Montupé à se défausser de ses responsabilités et vis-à-vis de nous, les travailleurs, vis-à-vis de la collectivité, en déclarant son incapacité à payer ses dettes. Comme si Montupé, groupe profitable, n'avait pas les moyens de payer tout cela. Comme si ces gangsters n'avaient pas sciemment organisé la mise sous production de la mise en sous-production de la fonderie d'Ingrand pendant qu'ils surchargeaient le travail des autres établissements. Mercredi, les patrons se sont même payés le luxe, hier d'ailleurs, et le ridicule de nous adresser une ordonnance obtenue du tribunal de grande instance de Poitiers. Ordonnance qui nous enjoignait, sous peine d'astreinte et d'intervention des forces de police, de laisser libre l'accès à la fonderie. Nous avons choisi de laisser libre l'accès. Et qu'avons-nous vu rentrer hier et aujourd'hui? Un quart ou deux tiers vide, transportant à peine une méchante vingtaine d'agents de maîtrise et de cadres qui ne suffit pas à autoriser à travailler pour qu'ils fassent quelque chose qui y ressemble. Mais les patrons essaient de reprendre la main et spéculent sur l'usure de notre grève. Mais ils ne sont pas débarrassés de nous. Nous n'avons pas rendu les armes. Alors oui, je crois pouvoir dire que nous sommes fiers de notre lutte, fiers d'avoir osé dire non à la brutalité patronale. Et même si nous sommes heurtés au difficile contexte qui jusqu'à présent fait que le poids du chômage et le manque de confiance des travailleurs en leur force collective rendent difficile la propagation de la lutte, nous avons ressenti profondément que la seule voie pour répondre à l'offensive des patrons et des gouvernements, la seule force réelle, c'est la lutte collective. Et pour finir, la lutte sur notre terrain avec nos armes de classe, la grève, les manifestations, jusqu'à l'indispensable explosion sociale que nous espérons.